contre toute attente. Salut à tous, avec vous c'est Christine, bienvenue à bord d'un contre toute attente tout en profondeur. Et c'est parti pour une nouvelle aventure qui commence avec un trio de choc, Carol Fredericks, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones.
Qu'est-ce qu'on aurait dû, qu'est-ce qu'on aurait pu, personne n'est pour rien, chacun son destin. Ici c'est comme ça, c'est chacun pour soi, la vie, les rumeurs, peu contre peu.
Un jour elle est partie.
contre peur, nous sommes d'ici. Elle est d'ailleurs, voilà un bon début pour ce contre toute attente consacré aujourd'hui à une question pleine de dynamite, la tolérance. Parler de la tolérance, c'est certainement s'engager sur une voie dangereuse, mais dans contre toute attente, on est prêt à prendre des risques, d'autant plus si l'on se met d'accord sur le fait de réfléchir au sujet de la tolérance dans une perspective chrétienne. Pour cela, nous recevons aujourd'hui un professeur de philosophie, Carl Robert Grandpierre. Dans un article qu'il a publié qui s'intitule « Tolérer la tolérance », Carl Robert Grandpierre fait une remarque de simple bon sens. La tolérance n'est un problème qu'entre personnes qui se fréquentent habituellement. Nous l'écoutons au micro de Philippe Malidor.
Il y a un problème de tolérance dès qu'il y a concurrence possible pour le partage d'une chose commune, que ce soit un espace commun, une idéologie commune, un bien commun. Ça suppose en effet qu'on se fréquente et qu'on est condamné en quelque sorte à se partager la même chose.
Alors il y a des échelles de distance, par exemple le mode de vie des Esquimaux, bon bah ça nous importe peu. La religion au sud de la Méditerranée, ouais. Ça nous importe un peu plus. Ouais, mais si votre femme était musulmane, ça serait peut-être plus gênant pour vous, non ?
Ben c'est ça.
Par exemple.
C'est ça. La tolérance est une dimension qui n'a même pas lieu d'être considérée quand il s'agit de choses qui ne me touchent pas, qui sont très éloignées. C'est vrai, les mœurs des Esquimaux, pour reprendre votre exemple, quelles qu'elles soient, elles peuvent m'étonner, me surprendre, mais elles n'appellent pas ni ma tolérance, ni mon intolérance. Par contre, si je vais à les fréquenter dans une relation de famille ou de commerce ou autre, le problème se poserait.
Donc c'est un problème de friction, quoi, la tolérance et l'intolérance.
C'est ça, de friction, de cohabitation, de proximité, oui.
Pourquoi dites-vous, dans cet article auquel je faisais référence, qu'avec l'alliance de la religion et de la politique, le pire est prévisible ?
Parce que justement, dans la religion comme dans la politique, il y a une dimension idéologique qui peut prendre le pas sur d'autres aspects qui me paraîtraient à moi plus importants, dans la religion notamment, mais souvent l'aspect idéologique prend le pas, et c'est-à-dire qu'en religion, on se trouve dans la situation qu'on évoquait tout à l'heure, où il n'y a qu'une chose à partager, parce que si des gens croient d'une certaine manière, en un dieu ou en un certain discours, ils prétendent à la totalité de cette vérité. Par conséquent, ceux qui vivent à côté et qui croient autrement ne sont pas acceptable ou pas facilement acceptable.
Oui.
À moins qu'on soit dans une situation polythéiste où il y a autant de dieux qu'on veut et où des peuples qui croient d'autres dieux ne sont pas gênés par la présence du voisin. Mais dès qu'on est en situation de monothéisme, de religion autour de la révélation d'un seul dieu, il y a une concurrence presque nécessaire entre des différences d'interprétation ou des différences de tradition qui se côtoient.
D'où l'intérêt donc de séparer le politique, c'est-à-dire le fait de régir la vie en société ne doit pas dépendre du religieux, notamment dans le cas du monothéisme, si je vous suis bien.
Dans le politique, le même problème de tolérance se pose, parce qu'il y a aussi dans certains partis, surtout extrémistes, une prétention à être seul, à maintenir le cap juste, ou à dire le vrai, par conséquent le risque d'intolérance à l'égard d'autrui. Maintenant, pour ce qui est du rapport entre le religieux et le politique, effectivement, la laïcité a montré en Occident que de séparer soigneusement les deux dimensions était déjà une garantie importante, pas suffisante à mes yeux, mais déjà importante pour vivre un climat de tolérance acceptable.
Vous dites aussi que c'est au plus fort de tolérer. Que le petit, il n'a pas le problème de devoir tolérer le grand, parce que de toute façon, il est obligé, on ne lui demande pas son avis.
Oui, mais cela dit, on peut tous se trouver en situation d'être le plus fort.
On est toujours le fort de quelqu'un.
Ouais. Et dans une relation particulière, celui qui se trouve être le fort de quelqu'un, qui a un pouvoir sur l'autre, même si sur d'autres plans il est faible, économiquement, ou par l'âge, ou par le statut social, mais dès qu'on a un pouvoir sur autrui, on est celui qui est le premier concerné par la tolérance, parce qu'on est celui qui peut pratiquer l'intolérance. Et au fond, l'exemple que je prenais, c'est que dans le cas historique bien connu des minorités protestantes qui ont été malmenées en France, le problème de la tolérance, il aurait dû se poser à la majorité dominante, et non pas aux minorités souffrantes. Alors la question se pose aujourd'hui de savoir si qui doit se poser en priorité la question de la tolérance. Et la question n'est pas simple, parce que si c'est décidé qu'on quitte le terrain politique ou idéologique, on s'aperçoit que dans les familles, dans les entreprises, dans les écoles, il y a un tas de rapports de force qui sont complexes et qui sont variables. Et que c'est toujours à celui qui, dans une situation particulière, a le pouvoir, dirige, a le pouvoir de décision, c'est toujours à lui de se poser la question de la tolérance.
Vous dites aussi que le pluralisme est un fait, mais que certains ne veulent pas que ce soit un droit.
Oui, il y a des chrétiens, notamment, qui reconnaissent l'existence du pluralisme, des différences de tendance ou d'interprétation, ou de, voilà, comme un fait, mais qu'ils trouvent regrettable. Sous-entendu, l'idée qu'une interprétation, mettons-nous sur un terrain chrétien directement, sous-entendu, l'idée qu'il y a une capacité à dire le vrai, à interpréter de façon correcte, qui est exclusive, et que les autres sont nécessairement dans l'erreur, ou on fait des dérapages ou des compromis malheureux. Alors, cette attitude-là, elle regrette le pluralisme tout en devant le supporter. Je pense qu'on irait plus loin si on reconnaissait que le pluralisme n'est pas seulement un fait, qu'il faut constater, mais que c'est un droit. Que c'est un droit parce que la diversité des gens et des approches et des histoires par rapport au texte biblique rend absolument normal et nécessaire qu'il y ait plusieurs discours possibles et plusieurs interprétations et plusieurs confessions possibles. Mmh. Et cela, il ne faut pas le voir comme une chose regrettable, malheureuse, mais au contraire, comme une chose... Il me semble qu'il faudrait le renverser à la présomption et le voir comme une chose féconde et qui est le point de départ d'un enrichissement mutuel.
Et j'ai besoin de vous quand la vie m'abandonne. Soirs monotones me font douter de tout, et j'ai besoin de vous. C'est à vous que je donne. Seuls les sages et les fous n'ont besoin de personne, et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous comme d'une passion cachée, comme des mots qui nous donnent des raisons d'exister. Et j'ai besoin de vous comme d'un amour secret qui me demande tout. Comme j'ai besoin de vous, et j'ai besoin de vous quand mon âme m'abandonne, quand les tambours résonnent. J'ai besoin de vous, c'est à vous que je donne. Seuls les sages et les fous n'ont besoin de personne. Moi j'ai besoin de vous.
Seuls les sages et les fous n'ont besoin de personne. Un tout petit peu d'ironie dans ces paroles de Michel Berger, interprétées par France Gall. Des paroles qui illustrent les propos de notre invité, en quelque sorte, car accepter d'être enrichi par l'autre, c'est certainement reconnaître avoir besoin de lui aussi. Nous retrouvons Philippe Malédor en compagnie de Karl Robert Grandpierre.
Est-ce qu'on peut croire à un barème universel de tolérance ? Est-ce que ça peut se faire selon les mêmes critères, partout et à toutes les époques ? Est-ce que vous croyez qu'il y a des normes absolues, en gros ? Du tolérable et de l'intolérable.
Il y a peut-être quelques principes qui peuvent être dégagés. Mais je ne saurais pas très bien les formuler comme ça, mais en tout cas...
Prenons par exemple les 10 commandements. Certains disent que ça s'applique qu'aux croyants et d'autres disent que c'est des normes, enfin ça définit un cadre de vie pour toute l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ?
Mais on peut dire que dans la tradition chrétienne, les théologiens eux-mêmes n'ont pas été d'accord sur le statut qu'il fallait accorder aux 10 commandements. Entre Luther et Calvin, pour prendre les deux grandes voies du protestantisme, Luther et Calvin attribuent aux 10 commandements une fonction différente. Alors, moi, je ne crois pas qu'on puisse énoncer des normes universelles.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la tolérance est l'expression du consensus d'une société et d'une époque donnée ? Par exemple, les critères de tolérance dans nos sociétés, à l'époque où on vit, ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans.
Ça, c'est
ces mêmes sociétés. Par exemple, ce qu'on voit à la télé n'aurait pas été toléré il y a seulement 15 ans.
Faut bien, alors, à ce propos, moi, je remarquerais qu'on vit dans une société apparemment très tolérante. Parce que c'est vrai que les manifestations de vie, de mœurs, d'attitudes, de croyances très différentes sont permises, sont montrées, qu'on est effectivement bien plus ouvert à toutes sortes de choses qui se vivent qu'on l'était il y a 50 ans. Mais je ne suis pas sûr que cette tolérance-là soit très profonde, ni qu'on puisse lui faire une grande confiance. Je veux dire par là qu'il y a une tolérance qui est nourri d'indifférence. C'est parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus de convictions précises en matière religieuse ou morale ou politique qu'ils tolèrent toutes sortes de choses. Ça les laisse indifférents puisqu'ils n'ont pas de convictions. Et c'est aussi parce que nous vivons dans une société d'abondance. Enfin, maintenant, l'abondance est une chose qui est peut-être en train de passer. Et il faudra envisager d'autres façons de vivre ensemble. Mais jusque dans ces 25 dernières années, on a vécu dans une situation d'abondance qui faisait que là aussi, on est tolérant, puisqu'on manque de rien.
Et voilà.
Et c'est facile d'être tolérant dans ces conditions-là. Ouais. Mais c'est une tolérance qui ne m'inspire pas une confiance totale. Je veux dire par là qu'on sent bien que c'est une tolérance de nantis, de gens qui sont qui sont pas dans le besoin. Mais qu'on voit à certaines circonstances que la renaissance du besoin, même très partielle dans un secteur très particulier, fait tout de suite monter les tours, hein, et qu'on sent les gens prêts à se battre sans aucune tolérance et sans beaucoup de nuances pour garder le petit avantage, le privilège ou l'accès à telle source de biens auquel ils prétendent avoir droit.
Alors, la forme de tolérance molle à laquelle vous venez de faire allusion, hein, c'est d'abandonner mollement les autres à leurs erreurs sans se fatiguer à dialoguer. Quoi. Ils se trompent, mais c'est pas grave, peu importe.
Ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire aussi que j'en sais rien s'ils se trompent, parce que moi-même, j'ai pas de conviction.
Mais voilà, c'est-à-dire, tout est relatif, il n'y a rien d'absolu, et donc il n'y a plus de référence pour personne. Quoi.
Il me semble que c'est un peu ça qui caractérise la tolérance qui a cours dans notre société.
Vous définissez un deuxième niveau qui est un petit peu plus reluisant, c'est la tolérance avec le débat d'idées, où on accepte de se confronter avec les opinions des autres.
Alors, elle est plus féconde, parce que ce serait la tolérance, en effet, de quelqu'un qui n'est pas tolérant par manque de conviction ou par manque d'idées, mais parce que il reconnaît que le chemin de la pensée, des convictions, encore une fois, en matière religieuse, en matière morale, en matière politique, reconnaît que c'est un lieu ouvert, que c'est un lieu qui mérite toute notre attention et notre effort, qui a intérêt à se documenter, à réfléchir et à se faire une idée sur les choses, mais qui reconnaît aussi qu'on a tout à gagner à rester en contact et en dialogue avec ceux qui font le même travail de réflexion sur d'autres bases. Mmh. Et que la tolérance, là, elle devient une sorte de règle du jeu, une sorte de fair play aussi, parce que je reconnaîtrais dans cette situation-là que nous sommes tous des joueurs. Façon de parler, c'est une image pour parler de la vie. Nous sommes tous dans un grand jeu, nous avons tous un mandat, et nous avons tous une capacité d'y voir clair ou de réfléchir au sens de ce que nous vivons, et qu'il n'y a aucune raison de penser que la vérité est de mon côté ou dans ma tradition, et que je dois combattre ou refuser ou faire barrage à tous ceux qui pensent autrement.
Alors d'ailleurs, vous définissez un troisième niveau qui consiste à reconnaître pleinement la pensée de l'autre comme non inférieure à la sienne propre, à celle qu'on a. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus difficile, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on a un peu plus raison que les autres, sinon on ne penserait pas ce qu'on pense.
Mais c'est vrai, mais c'est tout à fait logique ce que vous dites, qu'on pense ce qu'on pense, puis si, autrement on ne le penserait pas si c'était moins bon que ce que pensent d'autres, c'est évident. Et pourtant, ce troisième niveau de tolérance, je le trouve admirable, parce qu'il témoigne pour quiconque de la conscience qu'il a que de ce que sa position ou ses croyances sont toujours, non pas qu'il les atténue ou qu'il en fasse bon marché, mais quelles qu'elles soient, elles sont quand même liées à son histoire à lui. Elles sont le produit de son éducation en partie, elles sont le fait de son itinéraire à lui, de sa trajectoire de vie, et que quelles qu'elles soient dans leur qualité et dans le degré d'attachement qu'on a à ses positions, hein, de croyance ou de conviction, il faut admettre que nous ne possédons pas la vérité.
C'est-à-dire qu'il faut distinguer notre croyance en Dieu de Dieu lui-même.
Absolument.
Dieu est absolu, mais ma croyance ne l'est pas.
Et j'ai l'impression,
c'est une approche.
Et paradoxalement, j'ai l'impression que les croyants, de toutes les religions d'ailleurs, plus ils sont engagés dans la foi et plus ils sont sérieux dans leur relation à Dieu, et plus ils sont capables d'accepter cela. Je dis que c'est paradoxal, parce qu'aux yeux de certains publics, on pourrait penser que celui qui croit vraiment, qui est engagé, il devient absolument intransigeant et il ne fait pas de compromis sur les choses. Et je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. En réalité, les grands spirituels, les gens qui ont consacré leur vie à Dieu et à la méditation et à la prière, sont plus ouverts que d'autres, parce que justement, c'est cette démarche sérieuse et approfondie qui leur fait découvrir que Dieu est encore toujours au-delà d'une idée ou d'une vérité qu'on peut s'approprier et qu'on peut asséner à d'autres.
C'est-à-dire, plus on en sait, plus on mesure tout ce qu'on ne sait pas.
Alors, ce que vous dites là, sur le plan de la connaissance, est tout à fait transférable sur le plan de la foi.
La théologienne France Quéré parlait du paradoxe suivant. La vraie tolérance est le fait d'un être animé de convictions fortes. C'est très étonnant puisque plus on est sûr de ses opinions, plus on devrait rejeter celles des autres, qu'a le Robert Grandpierre.
Elle ne considère au fond une tolérance comme intéressante que quand elle est nourrie de convictions. Alors, premier paradoxe, hein, puisqu'on pourrait croire d'abord que quand on a des convictions, par définition, on y tient et on bagarre contre tous ceux qui en ont d'autres. Elle considère que ce n'est pas le cas du tout et qu'il faut distinguer conviction de croyance, en disant ceci à peu près. Si j'ai des croyances de clan, de club, de parti, des croyances que j'ai acquises par ma famille et que je n'ai pas par rapport à elles une position très, très personnelle, très libre, mais plutôt de tradition et d'habitude, effectivement, je vais bagarrer pour elles. C'est mon identité qui est en jeu. Hein, je vais défendre mon clan, défendre mon église, défendre mon parti, défendre mon ethnie contre une autre. Mais ça, ce serait au niveau des croyances, qui sont au fond très irrationnelles ou très, très viscérales. Elles se confondent avec moi, elles me constituent, ces croyances-là, et je ne peux pas m'en défaire ou m'en prendre une distance par rapport à elles. Mais les convictions, c'est autre chose, d'après France Quéré. Une conviction, et en particulier une conviction chrétienne, c'est bien sûr aussi l'apport d'une tradition, l'enseignement de mes parents, de mon église, d'une tradition, mais c'est aussi et c'est surtout un chemin que je fais moi-même, où je me donne à Dieu, où je me fais des convictions, où je me constitue ma position par rapport à Dieu. Et cette conviction-là, elle est le fruit d'un chemin personnel, intelligent. Ça ne veut pas dire forcément très instruit ou très, très compliqué, mais intelligent dans le sens que je m'y donne de toute ma vie, de tout mon cœur. Et cette conviction-là, pour France Quéré, et là je partage entièrement son analyse, cette conviction-là, elle est tout à fait liée à la tolérance. Elle garantit une forme de tolérance. Parce que plus je fais ce chemin de réflexion, d'information et d'approfondissement de ma foi, et plus je suis sensible au fait que d'autres, ailleurs, avec tout autant de sérieux que moi, peuvent l'avoir fait. Bien sûr, j'ai à discuter avec eux. Je reviens au deuxième niveau de la tolérance, où il y a un enrichissement évident à parler, carte sur table, à ne pas fuir l'affrontement, mais à dialoguer, comme on le faisait déjà au Moyen-Âge, dans ces disputes théologiques, où on s'enrichissait d'un partenaire qui pensait fermement et qui ne pensait pas comme vous. Alors je crois que là, c'est tout à fait praticable et qu'il faut le faire, mais ça peut déboucher aussi sur une sorte de paix, sur une sorte de lâcher-prise, de dépouillement de la personne qui est convaincue et qui est de plus en plus profondément habité de la présence de Dieu et du désir d'en témoigner, mais plus comme d'une idéologie qu'il faut défendre, ou d'une marchandise dont il faut vanter la qualité contre une autre, ou plus comme d'une possession qu'il faut faire valoir contre les droits d'un autre, mais comme étant d'un chemin qui m'enrichit, mais qui en même temps me rend de plus en plus humble, pauvre, devant Dieu, que je ne possède pas et que je ne maîtrise pas, dont j'ai pas à me faire le défenseur par tous les moyens.
Donc je ne suis pas propriétaire de Dieu.
Je ne suis pas propriétaire de Dieu.
On ne possède pas Dieu, on ne le maîtrise pas, on n'a pas à le défendre par tous les moyens. Carl Robert Grandpierre le soulignait à l'instant, il s'agit pour l'être humain de choisir un chemin d'humilité, reconnaître que sans Dieu, on n'est pas grand-chose. Sans toi, voici le groupe Valeur Absolue.
Toi, je ne suis rien. Je peux mériter des médailles pour ce que je fais. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Je peux me mettre à ton service, abandonner mes biens. Sans toi, je ne suis rien. Je peux recevoir les honneurs. Moi je n'en veux aucun, sans toi je ne suis rien. Sans